bonsoir à tous, merci de votre fidélité à VOA Afrique. Comme chaque semaine, c'est votre magazine des sports, Sporama. On va refaire l'actualité sportive de ces 7 derniers jours, les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, sur notre page Facebook VOA Afrique ou évidemment par téléphone 001 202 619 31 40, 001 202 619 31 40. Joselle Morissin et Georges Léonard Sagnot qui sont derrière la vitre pour prendre vos appels. On va saluer nos intervenants de ce soir. On va d'abord saluer à Libreville Jules Valentin de Goé. Bonsoir Jules.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
On va saluer également depuis la France, Amdine Sy qui est d'habitude à Dakar. Bonsoir Amdine.
Bonsoir Nicolas Pinot, bonsoir à tous les auditeurs de VOA Afrique.
Et on va rester dans l'Hexagone, on va saluer Christian Panzou qui est à Paris. Bonsoir Christian.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
Et on va saluer quelqu'un que j'apprécie beaucoup, c'est notre confrère camerounais de la chaîne Canal 2, Jean-Bruno Tagne. Bonsoir Jean-Bruno.
Bonsoir Nicolas.
Alors évidemment, Jean-Bruno, on va commencer avec vous cette émission, une émission un peu particulière, un peu morose hein, pour le sport camerounais, puisqu'en 48 heures, deux joueurs, un joueur et une joueuse sont décédés sur des terrains de football. La dernière en date, évidemment, c'est Janine Christelle Jomnang, la gardienne de but du Femina Stars des Bolloa. Elle a succombé dimanche à l'entraînement, juste avant un match comptant pour la sixième journée de son club de première division contre Louve Minprof. On va évidemment revenir longtemps avec les uns et les autres hein, sur le décès de Patrick Ekeng. Mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Jean Brugnotagne, sur le décès de cette joueuse, Janine Christelle Jomnang?
Oui, effectivement, vous l'avez dit, elle est décédée ce dimanche, alors qu'elle était encore à l'entraînement avant le début d'un match. Disons que pour l'instant, les circonstances ou alors les raisons exactes de son décès ne sont pas encore connues. Pour l'instant, on parle de crise cardiaque. Et voilà, ce matin, la Fédération camerounaise de football a organisé une espèce d'hommage à cette joueuse et en plus à Patrick Ekeng également, parce que c'est un véritable week-end noir pour le football camerounais qui perd deux joueurs comme ça, pratiquement dans les mêmes conditions, c'est-à-dire sur le terrain.
Alors évidemment, hein, on a beaucoup parlé hein, depuis Bucarest et partout dans le monde du football de Patrick Ekeng, ce joueur évidemment qui est décédé lui sur la pelouse lors d'un match. Aujourd'hui, une autopsie devait être pratiquée hein, à Bucarest, que c'est ce qu'avait indiqué le parquet. Une mort encore une fois tragique, évidemment. Jean-Bruno Tagne sur Patrick Ekeng. Le monde du football évidemment a réagi, notamment Samuel Eto'o sur sa page Facebook hein, qui s'est dit complètement effondré et abattu. Là encore, Jean-Bruno Tagne, émotion au sein du football congolais, hein. Camerounais, pardon.
Oui, c'est une très très vive émotion parce que les images du décès de Patrick Ekeng sont diffusées pratiquement en boucle sur les chaînes de télévision au Cameroun. Dans tous les bars, on commente, personne n'en revient. Mourir de cette manière-là à 26 ans, c'est quand même assez dramatique pour ce jeune joueur qui commençait simplement à prendre ses marques avec les Lions d'Atlanta, parce qu'il y a quelque temps, il était aligné par le sélectionneur, c'était notamment en Guinée équatoriale. Donc, on en attendait beaucoup. Donc, c'est un joueur qui a commencé sa carrière véritablement au Canon de Yaoundé. Il a participé à la CAN Junior avec le feu entraîneur Alain Wabo. Donc, c'est un joueur qui était plein de talent, plein d'avenir. Et comme je le disais tout à l'heure, la Fédération camerounaise de football a décidé de lui rendre hommage aujourd'hui. Il y avait une cérémonie au siège de la fédération à cet effet. C'était vraiment des grands moments de tendresse. On continue de se poser beaucoup de questions parce que ce n'est pas la première fois qu'un footballeur camerounais décède dans ces conditions-là. On a eu le 26 juin 2003, si je m'abuse, voilà, avec Marc-Vivien Foué. Il y a eu également un autre joueur qui est mort sur le terrain. C'était à Douala, j'oublie un peu le nom de ce joueur. Donc il y a véritablement comme une espèce de malchance qui poursuit le football football camerounais ces derniers temps. Donc beaucoup de questions se posent sur cette décès en cascade de footballeurs camerounais sur le terrain.
Alors justement, Jules, Valentango est un peu la mémoire vivante de cette émission. Jean-Bruno Taigne le rappelait également, malheureusement, un Marc-Vivien Fauré qui était également mort sur la pelouse. Ça fait beaucoup hein, pour le football camerounais.
Oui, c'est beaucoup pour le football camerounais, surtout qu'on ne peut pas assumer la défaillance médicale dans le suivi des joueurs. Ce sont des joueurs qui sont et qui ont passé toutes les étapes de l'itinéraire des sportifs de haut niveau, depuis les jeunes jusqu'à l'équipe nationale et le professionnalisme. Et ils meurent dans des pays de football où on est équipé pour cela. On se rappelle que pour Marc Vivien, c'est lors quand même de la seconde compétition mondiale des nations qui est la Coupe des Confédérations qui est décidée sur un des plus grands stades d'Europe. Et donc on ne peut pas à ce niveau-là parler vraiment de négligence médicale, mais il faut dire que le sport de haut niveau maintenant tel qu'il est pratiqué et peut-être expose un peu plus aux accidents et qu'il faudra être vigilant. On se rappelle que lors des coupes de confédération du passé, les matchs étaient espacés d'à peine 3 jours, mais maintenant on parle d'une semaine au minimum, donc ça veut dire que les choses évoluent aussi à ce niveau. Donc il faut être très vigilant, le corps humain n'est pas une machine.
Merci beaucoup Jules Valentin, on va reprendre évidemment Jean-Bruno Taigne. Jean-Bruno, merci beaucoup d'avoir été avec nous, encore une fois toutes nos condoléances hein, au football camerounais, merci beaucoup.
Merci beaucoup Nicolas.
À très bientôt.
Merci beaucoup Nicolas. À bientôt.
Voilà, c'était notre confrère Jean-Bruno Taigne hein, de Canal 2 au Cameroun qui était avec nous malheureusement pour parler hein, évidemment de ces deux décès de Ekeng. Évidemment, ça c'était en Roumanie et également Janine Christelle Njomnang. On va marquer une petite pause sur VO Afrique. Voilà, vous êtes toujours sur VOA Afrique, on parle de sport, c'est Sporama. On revient sur les terrains puisqu'avait lieu évidemment ce week-end le tour de cadrage de la Coupe de la Confédération. Beaucoup de résultats intéressants, notamment l'étoile sportive du Sahel qui a battu 2-0 le CF Mounana. Jules Valentin Goué, l'équipe surprise, hein, Mounana qui n'en finit pas finalement de surprendre. Est-ce que là, ça va pas être la grosse équipe qui va réussir à faire tomber le CF Mounana?
Oui, il faut dire que les grosses équipes pour elles, c'est du rattrapage lors de cette huitième de finale reprise là. Et donc, finalement, l'étoile du Sahel sait que pour sauver sa saison, et tout doit passer maintenant par la deuxième Coupe africaine. Et les joueurs de Mounana ont craqué pratiquement entre la fin de la première mi-temps et le début de la seconde mi-temps. Et je crois qu'ils ont manqué d'expérience. Parce que la plupart des buts qu'ils ont encaissés sont des buts qui demandent de vigilance, notamment sur le coup de pied arrêté. Donc je crois que c'est surtout l'expérience qui a joué contre l'équipe de Mounana qui est inutile vraiment en devenir et qui a un président très actif actuellement. Ça s'occupe, en fait, qui gère l'équipe de manière un peu plus moderne. Mais je crois qu'à 2-0, vraiment, ce sera très, très, très difficile. Face à un grand mur comme l'étoile sportive du Sahel.
Et le Al Ahly de Tripoli, le club libyen, 0-0 à domicile contre le nouveau venu égyptien Mistre Makassa et les Young Africans de Tanzanie qui battent 2-0 l'Esperanza Sagrada d'Angola. Toujours samedi, c'était un match important pour les Bamako et finalement le Stade malien qui n'a pu faire que match nul 0-0 face au FUS de Rabat. On va écouter tout d'abord le coach du Stade malien, il s'appelle Kamel Djabour.
C'est un match de 0-0. Les deux équipes ont eu les occasions. Et nous, je pense, sur l'ensemble de la seconde mi-temps, on a eu les occasions franches. On n'a pas pu scorer, mais face à cette équipe du FUS qui nous a posé beaucoup de problèmes. Je pense qu'aujourd'hui, le Stade malien n'a pas démérité. Et je déplore énormément l'attitude de certains supporters qui viennent casser au lieu aujourd'hui d'encourager leur équipe. Je suis vraiment très, très déçu de ce comportement parce que ce sont des comportements antisportifs et ils n'ont pas leur place avec nous sur le terrain. Grosse équipe du FUS du Maroc, ils ne sont pas là par hasard. C'est des gens qui ont marqué quand même 19 buts jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, ils n'ont pas pu nous prendre à défaut. C'est du 50-50. On va aller nous battre là-bas chez eux. Nous aussi, on peut marquer et revenir avec une qualification. J'ai pas de problème pour ça. Aujourd'hui, on est dans le 50-50. On a fait que 0-0.
Voilà, il est encore optimiste, mais c'est vrai qu'il y a la déception hein, parmi les supporters du Stade Malien. On va écouter l'entraîneur du FUS de Rabat, Regragui Walid.
C'est un bon résultat, mais ça ne retire pas les chances du Stade Malien et ça ne retire pas les chances du FUS de Rabat au match retour. Ça va être un match équilibré, même si avec les joueurs qui rentreront au match retour, puisque j'ai fait souffler quand même beaucoup de titulaires, avec les titulaires, chez nous, avec notre public, on a peut-être 5% de plus de se qualifier, mais on les respecte. On va faire le maximum pour qu'au match retour, on puisse se qualifier pour la phase de poule. Bah, c'est une équipe solide hein, qui sait ce qu'elle fait, qui est habituée à jouer sous cette chaleur, qui est habituée à jouer sur cette pelouse, qui nous ont posé des problèmes par leur jeu long, surtout en deuxième mi-temps, avec les deuxième ballon. On a failli payer cash quelques petites erreurs individuelles, mais on aurait pu très bien nous aussi gagner le match sur les opportunités qu'on a, sur le penalty qui pour moi est clair et net. Mais voilà, il faut accepter les erreurs d'arbitrage, ça fait partie du football. Au match retour, je pense que les dés sont encore en jeu, mais il faut qu'on soit satisfait, nous. Il faudra gagner chez nous.
Voilà, c'était Regragui Walid, des réactions recueillies par Siaka Traoré à Bamako pour VOA Afrique. Je vous donne quelques autres résultats. L'Olympique Béjaïa d'Algérie, match nul 0-0 à domicile contre l'Espérance de Tunis. Le Mamelodi Sundance qui a battu 3-1 le Medeama du Ghana. Al Merrikh du Soudan qui domine 1-0 Kaobab de Marrakech. Et puis, évidemment, du côté congolais, on a beaucoup suivi hier le match du tout-puissant Mazembe à Lubumbashi. La victoire 1-0 du TP Mazembe contre le Stade Gabésien de Tunisie. On va écouter la satisfaction du Bervelu, de le coach des Corbeaux, même si c'est un bien maigre avantage avant le match retour en Tunisie.
Ce qui est positif aussi, c'est que...
Voilà, on va se chauffer sur les crampons et s'échauffer royalement hein, en côté studio. On va remettre la bande, on va écouter Hubert Velut, toutes nos excuses pour ce petit mélange.
Ce qui est positif aussi, c'est qu'on n'a pas pris de but, c'est très important. Sur l'ensemble des deux matchs, vous connaissez l'importance des buts à l'extérieur. Ce qui est positif aussi, c'est qu'on n'a jamais rien lâché dans ce match. On y a cru jusqu'au bout. On a fait preuve de beaucoup de force mentale à travers ce match. Et bon, ça peut être très intéressant pour la suite. Et évidemment que le deuxième match, ce ne sera pas le même match. Hein, ce sera autre chose, puisque l'adversaire sera forcément obligé de se découvrir. Globalement, je suis très satisfait. Bon, j'aurais voulu bien sûr gagner par un score plus large, au vu du nombre incalculable d'occasions encore, mais bon. Ce qui compte, c'est qu'on n'a pas lâché et surtout on a cru en nous jusqu'au bout et on s'est battu jusqu'au bout. C'est ça le plus important.
Est-ce que Mazembe a eu difficile à aller aborder cette équipe? On a senti qu'elle a carrément joué en défense, même avec 11 joueurs à un moment du match.
Oui, on ne pensait pas à ce point-là, quoi. On pensait qu'ils allaient devenir défensifs. C'est surtout leur position très basse qui nous a gênés. Bon, on a fait des changements aussi à la mi-temps qu'on a porté avec des joueurs différents, de styles différents. C'est vrai que l'équipe a eu un autre visage en deuxième mi-temps avec un autre style et avec beaucoup plus de jeux dans les pieds, avec des passes redoublées, ce qui les a beaucoup perturbés.
Voilà, c'était Hubert Velud, l'entraîneur des Corbeaux du tout-puissant Mazembe. On va poser la question à Jules Valentin Ngoué à Libreville. Jules Valentin, évidemment, hein, il faut la qualification pour Mazembe, notamment pour Hubert Velud. Hein.
Bien sûr, une équipe qui est championne, sortante en Ligue des Champions, ne peut pas se permettre de sortir à ce stade de la compétition. Mais je crois que le score de 1-0 est un score positif actuellement. Quand deux équipes de même valeur se rencontrent et que chez vous, vous n'encaissez pas le but des visiteurs, c'est déjà un avantage. Même le 0-0 n'est pas négatif. Donc à 1-0 déjà, Mazembe qui encaisse peu, mais qui marque aussi peu, et peut très bien gérer l'affaire à l'extérieur, et vu son expérience.
Merci beaucoup, c'était Jules Valentin Ngoué. Allez, on va prendre la direction évidemment de la Suisse, hein, l'Europe, pour parler de l'actualité footballistique du jour. C'est fini, coup de sifflet final pour Michel Platini qui reste suspendu de toute activité liée au football. Le président de la FIFA qui a démissionné évidemment a vu sa suspension réduite de 6 à 4 ans par le tribunal arbitral du sport. Il estime maintenant qu'il va poursuivre son combat devant les tribunaux suisses. Christian Panzou, vous êtes en France évidemment. Michel Platini qui ne va pas inaugurer l'Euro 2016 le 10 juin au Stade de France, comme il l'avait rêvé.
Alors, elle n'inaugurera pas l'Euro 2016, mais il sera très certainement un invité spécial de la Fédération française de football. C'est le président de la Fédération, Noël Le Graët, qui l'a précisé. L'invitation lui a été lancée. On ne sait pas si Michel Platini va l'accepter et venir assister à toutes les rencontres de l'équipe de France et les autres matchs de l'Euro. En tout cas, une chose est sûre, c'est pas une surprise. C'est pas une surprise, hein, cette décision. On s'y attendait. Michel Platini et son entourage s'y attendaient. Maintenant, ce qu'il lui reste à faire, c'est laver son honneur devant la justice suisse. Mais d'un point de vue des instances et surtout du football, je pense qu'on peut dire aujourd'hui que c'est terminé pour Michel Platini. Lui-même l'a dit, il compte démissionner de son poste, de tout poste lié au football et se tourner vers d'autres activités.
Merci beaucoup, hein. Christian Panzou. On va poser la question à Hamdine Sy. Hamdine, évidemment, hein, le président de l'UEFA, ex-président Michel Platini, ça y est, c'en est terminé, hein, évidemment, des ambitions pour la direction de la FIFA, hein, de Michel Platini. Hein.
Tout à fait, Nicolas Pinot, vous avez raison. On peut même dire que sa carrière sur le plan footballistique est terminée. Mais pour revenir un peu sur ce cas, il faut dire que Michel Platini a commencé à avoir des déboires depuis ce fameux 29 juillet 2015, le jour où il a annoncé sa candidature à la présidence de la FIFA en adressant quand même une lettre aux 209 présidents et secrétaires généraux des associations. C'est 3 mois après que ces problèmes ont démarré avec l'enquête pénale contre Blatter et Platini. Comme vous le savez, le procureur général de Suisse avait ouvert une procédure pénale pour gestion déloyale et abus de confiance. Depuis ce jour-là, la descente aux enfers a commencé pour l'ancien meneur de jeu de l'équipe de France et ça a abouti sur cette suspension qui a été réduite. Mais si on regarde ce qui s'est passé aujourd'hui, ça veut dire tout simplement que Platini, sa carrière sur le plan footballistique, il ne sera plus, non seulement il ne pourra plus être président de la FIFA, mais même en tant que président de l'UEFA, c'est terminé pour lui, il va démissionner. Maintenant, il va essayer quand même de redorer son blason. En faisant quoi? En continuant le combat auprès des tribunaux pour laver quand même un peu l'affront, c'est-à-dire avoir gain de cause, puisqu'on puisse dire dans un an, deux ans que Platini a été mêlé, mais la justice l'a blanchi. Il ne lui reste plus que cela, Nicolas.
Oui, en tout cas, ses ambitions sont évidemment tuées hein, par rapport à la FIFA. On rappelle que le tribunal arbitral du sport a réduit de 72 000 à 54 000 euros l'amende infligée à Michel Platini. On va suivre ça, mais évidemment, le temps judiciaire sera très long pour Michel Platini, pour peut-être, c'est un grand point d'interrogation, changer le cours de l'histoire juridique pour lui. On va parler d'une actualité beaucoup plus brillante hein, et footballistique cette fois sur le terrain. C'est la finale de la Ligue des Champions qui va opposer les deux ennemis madrilènes, l'Atlético face au Real Madrid. Griezmann contre Cristiano Ronaldo après l'élimination du Bayern Munich par l'Atlético et l'élimination de Manchester City par le Real Madrid. On va se tourner vers Christian Panzou hein, qui est à Paris, puis suit pour nous le football européen. Christian, on l'attendait et ça va être la revanche de 2014 finalement entre le Real et l'Atlético.
Bah écoutez, je vais commencer par me féliciter moi-même parce que je vous parle de l'Atlético depuis les quarts de finale face au FC Barcelone. Et bien l'Atlético, ils l'ont fait, ils sont en finale, ils ont leur revanche 2 ans après la finale de 2014 contre le Real Madrid. Et cette fois, je pense qu'on peut dire qu'ils sont en position de favoris vu le pedigree des deux équipes qu'ils ont éliminées en quart de finale et en demi. Le Barça et le Bayern, c'est pas rien. Je veux pas dire que le Real a eu un peu plus de chance et a affronté des équipes plus faibles. Mais tout de même, ça montre un certain niveau hein, d'éliminer le Barça et le Bayern. Tout le monde est en forme du côté de l'Atlético. Tout le monde sera présent. Il n'y a pas de suspendu. Du côté du Real Madrid, ben, Cristiano Ronaldo, certes, il a mis un doublé ce week-end. Benzema a marqué également. Mais c'est des joueurs qui sont encore... leur situation physique est encore en suspens. On ne sait pas trop. Gareth Bale a été ménagé ce week-end parce que lui aussi, il a quelques pépins physiques. Donc, si vous voulez, l'attaque du Real... et pas forcément, sera pas forcément au point le jour de la finale. Une chose est sûre, on aura un match magnifique. Revanche, deux ans après, à la dernière finale 100% espagnole, le Real et l'Atlético, qui sera le roi de Madrid, on saura seulement fumer à Milan.
Le roi de Madrid. Merci, Christian. On va